And so, the third celestial sphere in proximity to the sun entered a new millennium. 6 billion souls inhabiting 266 nations. Their resentment and hopelessness proclaimed in 7,000 distinct dialects. A planet in total disarray.
Order the city police officer on trial for killing Amadou Diallo, who found not guilty on all charges. The officers admit they fired 41 shots at Diallo because they thought his wallet was a deadly weapon.
The slaughter of ethnic Albanians by Serbs continues in Kosovo.
Society without government.
Streets of Miami's Little Havana clogged with thousands of protesters vowing to prevent the return of 8-year-old Ilian Gonzalez to his father.
Two teenage gunmen entered Columbine High School and opened fire, killing 13 students and wounding 23.
Society without law.
In the clear, our right on this earth.
People have been annihilated.
Anarchy.
In the clear, our right on this earth.
Another campaign for New York's vacant Senate.
Political and social.
In the clear, our right on this earth. To be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth.
Vous êtes sur fréquence Paris Pluriel 106.3 Bande FM pour une nouvelle émission des Périphériques vous parle. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter des entretiens avec Philippe Lemoine, fondateur du Forum d'Action Modernité et président directeur général de l'ASER. Entre autres questions sociétales importantes, seront abordées durant cette heure d'émission les enjeux démocratiques dans le monde du travail, l'évolution des organisations du travail et des identités professionnelles, des considérations sur l'économie de l'immatériel et sur le travail dans sa relation avec la réalisation de soi aujourd'hui.
J'aurais peut-être une première question à poser qui revient toujours comme un peu une forme de perplexité sur la naïveté générique de cette question de la démocratie dans le monde du travail. Puisque la lucidité, disons, nous amène à penser que l'entreprise est un espace privé et que sa finalité satisfait en premier lieu à des objectifs liés à sa performance et à sa viabilité économique. De ce fait, de quelle manière les enjeux démocratiques ainsi que celles du lien social se posent-ils en son sein aujourd'hui, selon toi ? Autrement dit, en quels termes et à quelles conditions on peut parler de démocratie dans l'entreprise ? Est-ce que ça revêt un sens, une pertinence aujourd'hui pour toi, par rapport à ce qu'on vit notamment au niveau de l'actualité la plus brûlante ?
Il y a une partie de la complexité de la question, dans tous les cas je trouve que c'est une question compliquée, et une partie de la complexité qui provient de l'ambiguïté du terme privé, quand on parle de l'entreprise comme un espace privé. C'est toujours un peu déroutant quand on lit un texte américain à propos d'une société cotée, d'une grande compagnie, dans lequel on dit « public company », une compagnie publique parce qu'elle est cotée, donc elle appartient à plusieurs propriétaires, par exemple « we are private » qui est vraiment privé. Donc il y a un sens économique, privé-public, qui serait celui de savoir si c'est un propriétaire, plusieurs propriétaires, une collectivité. Bon. Puis un autre concept tout à fait différent, qui est plus lié au rôle de la personne par rapport au collectif, privé, l'intimité, la sphère privée, etc., public, la sphère des échanges, de ce qui se débat, qui est un peu ce que l'on veut dire en France quand on parle par exemple d'un secteur public, c'est-à-dire un truc qui serait lié à l'État, qui serait lié à la sphère politique, ça n'a pas du tout le même sens que dans d'autres langues. Et je crois qu'il y a une sorte de confusion qui est entretenue entre le langage strictement économique et le langage sociopolitique dans privé public. Moi, je crois qu'il est indiscutable que dans une société dans laquelle, qui est organisée par l'appropriation privée d'un certain nombre de biens, ce n'est pas pour autant que l'entreprise n'est pas un lieu collectif. Et donc à partir du moment où c'est un lieu collectif, il se pose dans une entreprise des mécanismes de pouvoir, des mécanismes qui sont plus ou moins autoritaires, plus ou moins ouverts, plus ou moins de la même façon qu'on peut opposer les sociétés fermées et les sociétés ouvertes, on peut opposer les entreprises fermées et les entreprises plus ouvertes. Alors est-ce que c'est la démocratie au même sens que l'idéal démocratique de l'espace public ? Peut-être pas, mais je crois qu'on ne peut pas pousser l'analogie entre une entreprise et une collectivité humaine non finalisée par une sorte d'élément déterminé comme est une entreprise. On ne peut pas pousser l'analogie trop loin. Enfin, il ne faut pas s'abriter derrière ça pour refuser les questions de pouvoir et les questions d'ouverture par rapport au pouvoir qui sont posées derrière cette question.
sur l'organisation du travail, parce qu'il nous a apparu effectivement que la question des organisations du travail, comprendre de quelle manière elles ont évolué aujourd'hui, sous l'impact aussi des nouvelles technologies, mais ça c'est peut-être un débat qu'on abordera un peu plus après. Concernant l'organisation du travail, la détermination et le renouvellement de ses formes, est-elle le seul fait des équipes dirigeantes ou peut-il en être autrement selon des stratégies coopératives à développer au sein des organisations ? Est-ce qu'il y a des expérimentations, par exemple ?
Je ne sais pas si aujourd'hui le terme d'organisation du travail représente la question la plus élevée que l'on peut se poser en matière de travail. Il y a eu une époque où, par rapport aux questions sur le travail, il y avait beaucoup de questions qui étaient soulevées en termes de conditions de travail, dans lesquelles on abordait beaucoup les problèmes d'ergonomie, de structuration du poste de travail, du rapport entre la personne et son machine, son environnement, etc. Et puis l'organisation du travail qui renvoyait quelque chose de beaucoup plus collectif et qui était très proche des problèmes d'organisation de l'entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une distance qui s'est prise entre de nombreuses questions stratégiques et le problème de l'organisation du travail elle-même qui fait qu'il participe d'une question beaucoup plus générale qui est le changement de la place du travail même dans le fonctionnement économique et politiquement dans le fonctionnement des entreprises. Aujourd'hui, on est encore dans l'héritage d'une culture politique dans laquelle le travail occupait une place très singulière, puisque c'était à la fois le lieu dans lequel, par opposition aux sociétés d'artisanat, dans lequel les fils faisaient le même métier que le père, le travail, ça a été tout de même, à partir du XIXe siècle, le lieu dans lequel, bien qu'on était dans les sociétés, dans lequel on avait des identités héritées, dans lequel on se réalisait soi-même. C'était en même temps la base de la valeur économique et c'était en même temps le creuset de l'engagement collectif. Tout ça, à la fois. Et je crois que la question du travail, elle s'est nouée dans le fait que c'était ces trois choses en même temps, alors qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une société d'identité héritée, mais d'identité bricolée, et le travail est un des lieux parmi d'autres dans lequel on se cherche une identité. La base de la valeur économique, oui, on peut analyser le rôle du travail, mais enfin, quand on est abreuvé de nouvelles sur le fait que la principale capitalisation boursière devient des entreprises comme Google ou autres, dans lesquelles il y a si peu de salariés par rapport à la valeur qui est créée, on voit qu'il y a des tas d'autres facteurs du côté de l'innovation, de la création, etc., que ce que l'on appelait classiquement le travail qui est posé. Et il y a, au niveau de la planète, au niveau de la diversité, mille autres sources d'engagement collectif que le problème du travail. Donc il y a une sorte de décentrement de la question du travail et je crois que si on veut reposer la question du travail comme une question collective fondatrice, il faut sortir des cadres traditionnels dans lesquels c'est posé. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'occupent d'organisation du travail, mais ces gens sont quelquefois très disjoints des personnes qui ont en charge les stratégies d'entreprise, les modèles de création de valeur, la manière dans laquelle les préoccupations de marché, les préoccupations de marketing, les préoccupations d'ouverture à la société se posent, ou les questions proprement financières, se posent avec un poids extrêmement important par rapport à la question de l'organisation du travail productif tel qu'on l'aurait. Donc, autrement dit, on avait hier une société dans laquelle le travail était clairement la question sociale numéro un, dans laquelle, pour les entreprises, l'organisation du travail était de loin une des questions stratégiques les plus importantes. On est aujourd'hui dans une société dans laquelle l'importance sociétale de la question du travail s'est énormément déplacée, et le travail est une variable parmi d'autres dans ce qu'une entreprise doit organiser et conjuguer comme type de talent.
Et selon toi, justement, par rapport, disons, à une place du travail qui serait davantage à relativiser aujourd'hui, on a quand même un climat, on était encore il y a 10-15 années, plus dans un climat social de l'émancipation du travail, plus que l'émancipation par le travail ou dans le travail. Curieusement, face à la montée des grands ogres concurrents d'Asie, d'Amérique du Sud, tous ces pays, disons, qui ne sont plus des pays émergents, mais qui sont des pays maintenant dominants. Et donc, on a l'impression que par capillarité, dans les pays occidentaux, on avait un certain nombre d'acquis sociaux du fait même qu'on avait une augmentation de la productivité du travail qui autorisait une baisse de la durée du travail et que quelque part, on est en train de rebrousser chemin en disant, écoutez, comment voulez-vous, c'est le discours qui est souvent tenu en France, comment voulez-vous que la France, justement, survive à la concurrence quand on sait le niveau de protection sociale qu'il y a, quand on sait l'instauration des RTT, etc., etc. Donc il y a une remise en question qui ne dit jamais son nom, mais quand même qui est posée à travers des petites phrases provocatoires et qui vise à de nouveau rendre le travail hyper prépondérant quoi, sur nos vies.
Je pense que la société contemporaine dit plusieurs choses à la fois et de façon contradictoire, et ça se traduit pas du tout dans les mêmes pondérations selon les différents secteurs de la société. Je crois qu'à la fois, il y a le discours que tu as dit sur la mondialisation et qui revient à dire finalement l'économie s'organise souvent autour de ressources rares et le travail n'est vraiment pas une ressource rare. Avec les circuits économiques qui ont fait entrer 1,5 milliard de plus d'individus, Chine, Inde, etc., sur le marché mondial des biens et des services qui s'échangent de façon souple, d'un seul coup, il y a une sorte de dépréciation de la valeur travail. Je crois que c'est ça qui est dit d'un certain côté. Et d'un autre côté, on insiste sur le fait qu'on est de plus en plus dans les fonctionnements économiques dans lesquels la créativité, les relations, la singularité joue un rôle de plus en plus important dans la production de valeur et dans lequel on a l'air de considérer la personne comme la ressource la plus rare du monde. Parce que qu'est-ce qui est vraiment rare dans nos vies, hein, c'est qu'il faut les ressources, mais c'est plus encore les personnes, les sentiments, les relations. Et la société dit les deux propos en même temps. Et assez souvent, on constate d'ailleurs que le poids de ce discours n'est pas le même selon les niveaux hiérarchiques, selon les niveaux de salaire, selon leur exposition à la concurrence internationale, et on a une espèce de diffraction de la société qui est très très grande. Le grand développement de tout ce qui est les contrats d'outsourcing, comme on dit, de transfert de
d'outsourcing.
D'extraction de telle ou telle fonction d'une entreprise pour la confier à des sous-traitants ou à des partenaires sous-traitants, c'est souvent une façon d'opposer, dans beaucoup d'opposer des fonctions qui étaient plus conciliables dans les mêmes entreprises. Il y a des entreprises dans lesquelles l'importance de ce qui est réactivité, créativité, recherche devient tellement importante que l'organisation d'un certain nombre de fonctions qui sont du côté de la production ou qui sont du côté du traitement administratif en masse devient inopérable avec les mêmes process, les mêmes types de règles. Voilà, on ne peut pas arriver à faire cohabiter tout à fait l'eau et l'huile dans les mêmes. Ça conduit assez souvent à l'apparition de dire plutôt que ces rapports quasi contractuels mal organisés à l'entreprise, plutôt que de faire subsister ces identités ambiguës, qui est le terme de cadre par exemple des entreprises, ouais, renvoie à des choses tellement différentes entre le cadre de conception, c'est-à-dire des personnes qui sont quelquefois membres de services, où tout le monde est cadre, ou presque tout le monde est cadre, et puis les cadres d'exécution, d'organisation, qui ont réellement un travail d'encadrement. Mmh. Et en fait, les modèles d'organisation, de commandement, de création de convergence entre les personnes ne sont pas du tout les mêmes entre ces parties, et ça se traduit par le fait que, brusquement, on dit l'informatique, eh bien, on va confier ça à une entreprise différente. Le traitement de la comptabilité, on va confier ça à un prestataire différent. Et généralement, ces entreprises, qui sont les entreprises qui accueillent, fonctionnent selon des principes de commandement beaucoup plus, je dirais, classiquement tayloriens que les entreprises qui se détachent de ces fonctions. Et donc, je crois qu'on a une hétérogénéisation croissante de ce que sont les ambiances de travail selon les entreprises dans ces types d'évolutions.
Est-ce que ce que tu dis a trait aussi à ce qui s'est passé au niveau de ce qu'on appelait le re-engineering aux États-Unis, par exemple, avec justement ce recours à la sous-traitance qui s'est relativement généralisée, avec aussi une contraction du volume d'emploi qui était connexe.
À chaque crise économique, on constate qu'il y a un accroissement, un allongement des chaînes de la division du travail. Les années 30, après la crise de 29, avaient été un moment dans lequel de plus en plus d'entreprises s'étaient spécialisées avec finalement des services internes des entreprises qui étaient sortis pour devenir des entreprises qui fonctionnaient sur le marché. Et aujourd'hui, je pense que le développement des technologies d'information a de surcroît multiplié les situations de rapports quasi contractuels au sein des entreprises entre différents types de services. C'est l'expression courante de l'organisation des entreprises de dire que tel service est client d'un autre service qui devient son fournisseur. Alors, ce n'est pas des rapports réellement monétaires, encore que la comptabilité analytique des uns des autres fait comme si ces différents services étaient en relation les uns les autres dans des rapports de prestation de services, de contrôle qualité, etc. mais dans ces rapports quasi-contractuels, avec ces quasi-marchés que sont devenus les entreprises, face à l'adversité économique, il est tentant de dire, bah, plutôt que de rapports quasi-contractuels, passons à des rapports réellement contractuels. Mmh. Et séparons réellement les fonctions. Et je crois qu'il y a une espèce de traîne important, et qui s'est traduit beaucoup plus, d'ailleurs, dans les pays anglo-saxons qu'en Europe continentale, par non seulement le fait de confier à d'autres, mais de le confier sur une base de la division internationale du travail, avec une partie très importante, j'employais tout à l'heure le mot sur anglo-saxon d'outsourcing, mais qui se fait en offshoring. C'est-à-dire dans lequel on transfère dans d'autres pays des fonctionnalités importantes en matière de gestion des centres informatiques, en matière de gestion des centres de relations clients, les centres d'appel. Alors là, même en France, on voit une sorte d'hésitation de la part des entreprises de voir quelle est la part des fonctions de relation avec le public, avec les clients d'une entreprise qui doit être maintenue sur le territoire national, lesquelles peuvent passer dans d'autres pays, au Maghreb, en Afrique. L'Inde est tout de même le grand pays qui, à l'heure actuelle, tire une partie de son développement du fait d'abriter des fonctions tertiaires, l'informatique, les centres d'appel, la comptabilité entière de grandes entreprises anglo-saxonnes. Les principes d'organisation, encore une fois, de ces entreprises sous-traitantes, doivent répondre à des cahiers des charges dans lesquels on essaie de normer le plus possible les quasi-produits qu'elles fournissent, que sont ces services qu'elles fournissent aux autres entreprises, et relèvent souvent d'une organisation du travail très profondément différente des entreprises dont elles étaient auparavant les services spécialisés dédiés. Je crois que tout ceci conforte un petit peu la vision que l'ancien ministre du Travail de Clinton, qui est un économiste du travail, Robert Reich, avait de la structuration de la population active, en disant dans les pays développés, on a de plus en plus trois catégories très très différentes de salariés, de travailleurs, qui n'ont pas du tout le même rapport à la mondialisation parce que leurs intérêts ne sont pas les mêmes. On ne peut plus dire que nous sommes tous sur le même bateau Amérique, sur le même bateau France, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes entre les personnes qui sont dans des métiers de production répétitive, de tâches répétitives, qu'ils soient classés classiquement dans l'industrie ou dans le tertiaire, c'est pas très différent, parce que c'est des métiers qui sont très directement soumis de plus en plus à la concurrence internationale, parce qu'on peut les implanter dans tel ou tel pays en fonction d'un élément clé qui est le coût de la main-d'œuvre. Nécessairement, les personnes qui travaillent dans ces secteurs-là sont des anti-mondialisations. Et puis, il y a tout un secteur qui est en croissance très importante, sur lequel ils mettaient plus l'accent, qui sont les gens qui sont plutôt des manipulateurs de symboles. Ces manipulateurs de symboles, c'est la population qui est croissante et qui est plutôt généralement bénéficiaire de la mondialisation à l'heure actuelle. Et puis, il y a sa troisième catégorie, c'est les gens qui sont plutôt dans le monde des services à la personne, y compris au sens quelqu'un qui bosse dans un restaurant ou dans un bar ou autre, dont le statut va être très lié à l'emploi local, parce que c'est pas pareil d'être serveuse de restaurant dans un bar de Manhattan où on va servir des manipulateurs de symboles, ou dans le fin fond d'un état du centre où on sert plutôt des travailleurs répétitifs, avec en plus l'accent que Reich mettait sur la différence des tâches au sein du monde des manipulateurs de symboles entre les gens qui sont plutôt du côté d'une expertise et d'une valeur qui est liée au fait qu'ils possèdent une offre, qui est une offre d'un savoir disciplinaire. Ils sont des offreurs. Il y a des gens qui sont plutôt du côté de l'écoute de la demande. C'est des métiers très différents. Et puis, le plus grand nombre de gens sont dans des métiers de go-between, entre l'offre et la demande. C'est d'ailleurs un des problèmes énormes de tous les travaux de prospective de l'emploi, à quoi va ressembler l'emploi demain dans les économies développées. On trouve très souvent des calculs très très fins pour dire du côté des gens qui sont dans l'offre de savoir, d'expertise, on aura besoin de tant d'ingénieurs en bio, machin, tant de... Voilà, ça on est très précis. On est très précis dans certains emplois répétitifs ou dans certains emplois, on dit voilà, on aura besoin de tant de gardiens d'immeubles, de tant de cuisiniers, etc. Et puis on additionne tout ça et ça fait une toute petite partie de la population active. Et on n'a aucune vision du reste parce que le reste est dans beaucoup de métiers de go-between, d'aller-retour, Reich parlait de courtier stratège dans ses métiers. C'est-à-dire des gens qui ont pour fonction de rapprocher les logiques d'offre et de demande, et qui sont des métiers de plus en plus dans lesquels il y a énormément de facteurs très comportementaux, très liés à la personnalité, très liés à l'énergie des personnes, qui sont parmi les éléments clés de ce qu'il leur est demandé. Et ça, je crois que ça change énormément le regard par rapport à la manière dont on pouvait apprécier le travail de des organisations tayloriennes ou néo-tayloriennes, ah oui, dans lesquelles on normait énormément, oui, le travail, et on attendait une vision très quantitative et pas du tout de singularité ou de personnalité. Oui.
Est-ce que le taylorisme est mort avec la désindustrialisation, qui effectivement nécessitait cette segmentation des tâches, cette organisation dite scientifique du travail, pour justement aller naviguer vers des formes de management et des formes d'organisation beaucoup plus intuitives?
Je crois que les tentations tayloriennes, en plus pour moi, elles ne sont pas mortes. On ne peut pas dire qu'elles soient mortes. D'abord parce qu'on n'a pas inventé vraiment la suite. Et par ailleurs, je pense que une grande partie des personnes qui travaillent sont aujourd'hui concernées par une sorte de régression plutôt vers des modèles tayloriens. Lorsque dans certains types d'entreprises, comme je l'indiquais, on passe d'une logique de service interne qui participe de la grande notion des années... est morte à mon avis d'ailleurs, des années 80, c'était la notion de la culture d'entreprise. Ah oui. On concevait une entreprise, quelle que soit sa diversité, comme forcément il y a la culture, pendant les noms de marque, mais enfin voilà, la culture intel, que si on était des packs de rugby ou des personnes qui avaient tous les mêmes intérêts à la vie, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça aujourd'hui. C'est sûr que non. Et les gens qui se voient dans des système dans lequel il passe du statut de service interne qui, même si on faisait des tâches relativement répétitives, participait par un biais ou par un autre d'une culture générale qui n'était pas à dominante tayloriennes, et qui se retrouve dans un métier beaucoup plus normé, qui va avoir des rémunérations, des systèmes de primes, des systèmes de bonus pour l'entreprise entière, qui vont être très liés à la surperformance par rapport à des choses qui ont été graduées, définies a priori. Eux sont comeback très fort du taylorisme.
Ouais. Enfin, c'est une sorte de rémunération symbolique du travail fonctionnel, ou perçu comme, disons, relativement peu valorisé, quoi.
Mais qui se trouve un peu sectorisé. Et par ailleurs, il y a, je crois, par rapport à l'ambition qui serait aujourd'hui celle de dire tout ce qui est promis par des mots comme très soutenu par le développement des réseaux, des technologies d'information, l'idée d'intelligence collective, l'idée de travail collaboratif. Il y a pas mal de projets qui sont des projets qui ont des noms assez porteurs, assez vendeurs. Par rapport à ça, les savoir-faire et les envies sont tout de même pas encore tout à fait au rendez-vous. Pas beaucoup de cas où les entreprises sont réellement capables d'apprécier la valeur des personnes. Alors, si elles se trouvent dans une situation de visibilité exceptionnelle et au centre d'un phénomène de fascination collective comme l'est par exemple Google aujourd'hui, et où il y a 1 million de personnes qui sont candidats volontaires par an pour aller travailler chez Google. Alors là, et qu'on a une entreprise de 20 000 personnes, bien sûr, on peut se permettre d'avoir un fonctionnement managérial dans lequel on laisse une très grande liberté aux personnes. On dit, voilà, si on a tel niveau hiérarchique, mais assez bas, on a le droit à une journée par semaine dans laquelle on est en créativité pure. On peut être certain qu'avec 1 million de personnes qui attendent à la porte, personne ne va gaspiller la liberté qu'on vous octroie. Et ça, c'est des petits exemples dont on parle beaucoup parce qu'ils ont une valeur d'autant plus grande qu'il y a cette fascination sur la marque. Je pense que beaucoup plus largement, il est très très difficile aujourd'hui pour les entreprises, pour les DRH des entreprises, de savoir réellement prêter une attention à chaque personne, à chaque virtualité, aussi fortement que tout le monde aimerait le dire. Je pense en parlant à des publicités pas mal qu'ont fait certaines entreprises de travail d'intérim qui essayaient de souligner que derrière chaque profil, ils voyaient le violoniste rentré qui était derrière telle personne, l'alpiniste, qui voyait les passions et les singularités. Et la vérité, c'est que ce n'est pas tellement vrai.
Gorz avait bien souligné, d'ailleurs, que sa notion de production de soi serait reprise d'une certaine manière, puisque on a aussi dans l'idée de se produire soi-même comme sujet singulier, possible annexion par le capitalisme en l'État, essayant d'inculquer savamment à tout individu qui n'est plus salarié, qu'il est autonome, et qu'il doit désormais lui-même se percevoir comme du capital vivant, dans le cadre de ce qui serait plus une société capitaliste, mais d'une société de capitalisme intériorisé, au sens d'une société où il n'y a plus d'exploités et d'exploiteurs, mais des auto-exploités.
Parce qu'il y a deux phénomènes qui entrent en collision l'un avec l'autre. L'un qui est l'âge encore très très balbutiant de la capacité dans laquelle sont les organisations collectives à définir une sorte d'expertise opérationnelle pour savoir qualifier les compétences humaines, ce que quelqu'un peut faire, comment se positionne la question du développement personnel de quelqu'un dans une organisation collective. Mmh. Alors ça, c'est l'horizon, le rêve de tous les DRH de grandes entreprises en France, de jouer un rôle dans cette tâche très noble. Et la vérité, c'est que c'est très très difficile. J'ai une petite anecdote là-dessus qui me semble assez frappante, qui est celle de la formation, d'une filière de formation qui est la filière STAPS. Sciences et techniques des activités physiques et sportives, qui avait été pris à un moment donné comme l'exemple de l'aberration en France du système de rapport entre l'enseignement et l'économie. Tout le monde disait, mais il y a beaucoup trop d'étudiants, 80 000 peut-être, inscrits en filière STAPS, alors qu'il n'y a que quelques centaines de postes qui sont ouverts pour être prof d'éducation physique et sportive. Bien sûr, tout le monde voyait bien que ce rapprochement, c'était un petit peu ridicule parce qu'il y a bien d'autres métiers auxquels préparaient ces filières que d'être prof de gym. Mais, en fait, alors que c'était l'exemple qui était pris en même temps, il est apparu par une étude qu'avait fait le CEREC que la filière STAPS est, je crois, la troisième filière de tout l'enseignement supérieur en termes de performance pour fournir des emplois qualifiés aux personnes qui ont fait cette formation. Une des meilleures. Et alors, lorsque vous essayez de comprendre pourquoi, c'est parce qu'il est tellement difficile pour les DRH des entreprises de savoir apprécier une qualité humaine, qui est que quand on dit quelque part, voilà, on a besoin de gens qui ont du punch, de la gnaque, d'énergie ou autre, et qu'on voit dans un CV filière STAPS, ça c'est un bon marqueur, l'offre de formation devait répondre aux demandes des entreprises, que là il y a une sorte d'adéquation qui s'est faite, et qui est plutôt, je crois, une adéquation qui est la marque d'un dysfonctionnement. Et par ailleurs, par rapport à ce modèle dans lequel on valoriserait l'intelligence collective, les rapports entre les uns et les autres, il y a un autre phénomène, c'est que les lieux de travail sont un des lieux dans lequel on a à scolter tout à fait autre chose que le problème de l'efficacité collective aujourd'hui, ou même le problème de la création collective, qui est le problème des rapports interpersonnels, qui sont devenus infiniment plus compliqués dans une société dans laquelle on n'a plus des identités héritées, mais des identités bricolées. Ouais. Ça, c'est ce que Anthony Giddens a très bien décortiqué comme truc, c'est qu'une identité bricolée, ça nous donne à chacun, on fait tous ça, le plaisir de se dire, je suis un petit peu le démiurge, l'auteur de moi-même, les identités bricolées sont rarement aussi solides que ne l'étaient les identités héritées. Et donc, on utilise énormément les relations pour se prouver à soi-même qu'on existe. Dès qu'il y a des rapports de pouvoir, c'est extrêmement compliqué parce que les personnes utilisent le regard de la soumission qu'ils provoquent comme moyen de se prouver leur propre existence. Et ça, c'est un problème qui encombre tous les fonctionnements collectifs. Alors, c'est vrai dans les couples, c'est vrai à la politique, c'est un énorme problème, mais c'est vrai dans les entreprises, parce que à tous les niveaux, dans les entreprises, les fonctionnements sont extrêmement compliqués. Je crois que par rapport à ça, d'ailleurs, une des significations de l'intérêt que la société actuelle porte au sujet de la mixité au travail, au sujet de la diversité au travail, c'est parce que ça met en jeu cette question-là de voir comment fonctionnent ou ne fonctionnent pas les modèles d'autorité et les modèles et la façon dont se joue l'identité des personnes à travers les modèles d'autorité dans les entreprises. Et ça, c'est une question très, 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 très importante. On croit qu'il faut résoudre le problème de l'intelligence collective. La question première à résoudre, c'est celle-là.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel pour l'émission des Périphériques vous parle. Nous allons reprendre l'écoute de la deuxième partie des entretiens avec Philippe Lemoine, fondateur du Forum d'Action Modernité et président, directeur général de l'ASER.
Les risques psychosociaux pointent des effets et non pas des causes. Les causes, on peut les décrire. Le déni de compétences au sein d'une organisation, le manque d'encadrement, au contraire, l'abus d'autorité, plein de choses. Et c'est très intéressant qu'émerge quelque chose qui fait référence à des nouvelles formes de risques, qu'on appelle les risques psychosociaux, qui tiennent lieu du relationnel. Et puis simplement des risques objectifs qu'on pouvait quantifier, pointer, par exemple, dans certaines industries. Et donc c'est assez incroyable que maintenant, il y ait, de la part du ministère du Travail, cette incitation aux structures de plus de 1000 salariés, aujourd'hui, à prendre des mesures pour créer des dispositifs pour prendre à bras-le-corps cette question de prévention des risques psychosociaux. Sauf que les modes avancés en général vont être des modes de résolution individuelle. Cultivez votre karma, faites du yoga. Donc on rabat, ou alors on rabat sur la dimension psycho-affective. Alors que nous, on pense justement qu'il faut créer, réussir à instiller dans des entreprises des dispositifs de délibération collective, à la fois de diagnostic, en même temps une émergence de préconisation, pour qu'un collectif se rende capable d'autre chose que la dérive psycho-affective.
On a presque la sensation que la question du stress au travail, enfin le fait de ne pas s'y sentir bien, est quelque chose qui explose, alors peut-être uniquement médiatiquement, mais est-ce que pour vous, ça ne serait pas lié aussi à un nouveau défi qui est posé à l'entreprise, et peut-être aussi la question fondamentalement du sens du travail, notamment salarié aujourd'hui, quoi.
Si, alors ça, je suis totalement d'accord. À un autre moment de l'entretien, on parlait sur les identités et sur qu'est-ce qui se joue pour chacun dans le travail et qui se pose aujourd'hui dans des conditions qui, pour beaucoup de gens, sont stressantes. Et je crois que ce stress-là et la situation de désespérance telle qu'elle existait dans telle ou telle entreprise, c'est même deux choses qui ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, beaucoup de situations du travail créent une question qui est ressentie comme une question de stress parce que, un, il y a les rapports hiérarchiques qui mettent en œuvre à différents types de niveaux le problème du rapport d'autorité que font peser ces jeux d'identité les unes sur les autres. S'il y a tellement de situations dans lesquelles on parle de perversité, on invente des catégories juridiques qui ont trait au harcèlement ou des questions de ce genre, c'est qu'on reconnaît le fait que dans le travail, il y a des personnes qui peuvent peser sur d'autres pour croire qu'elles vont se réaliser elles-mêmes par ce type de jeu. Donc c'est déjà un phénomène terrible. Et en plus, il y a de plus en plus de fonctions de l'entreprise, des entreprises, qui sont liées à l'extérieur des entreprises et à toute l'orientation des entreprises vers des orientations clients qui mettent de plus en plus de salariés au contact des entreprises avec le stress propre de gens qui peuvent être en situation soit de clients frustrés, soit de personnes endettées qui téléphonent aux organismes de crédit en étant complètement... Donc, les personnes qui sont dans la situation reçoivent toute l'anxiété du monde de cette manière-là. Et je crois qu'un des problèmes d'une couche de salariés relativement importante, c'est d'être coincé entre le stress public, des clients, des personnes extérieures à l'entreprise, et le stress et les jeux de pouvoir de l'intérieur de l'entreprise. Ceci étant dit, je crois qu'il faudrait éviter de confondre aujourd'hui la question du travail avec la question du travail salarié. Je pense qu'il y a de plus en plus d'éléments dans la société qui font qu'il y a des choses qui se cherchent, qui se dessinent, qui ne sont pas caractéristiques du salariat. En France, 2009, il y a eu, si on additionne les environ 200 000 créations d'entreprises et les 300 000 créations de micro, de nano, de micro-entreprises, d'auto-entreprises, 500 000 entreprises qui ont été créées. Si ça se répétait tous les ans, c'est des chiffres absolument hallucinants. Par rapport à, on est dans un pays dans lequel il y a 820 000 naissances par an. Et si réellement il y avait tous les ans 500 000 personnes sur 820 000 nouvelles arrivantes par flux générationnel qui choisissent de tirer tout ou partie de leurs revenus d'une situation qui ressemble à de l'entrepreneuriat, c'est même tout à fait autre chose qu'une société organisée majoritairement autour du salariat. Je ne crois pas qu'il faille réduire aujourd'hui la question du travail à la question du salariat. Je crois qu'une réflexion sur le travail doit prendre le travail sous toutes ses formes.
Il y a l'analyse que André Gorz fait à travers son ouvrage L'Immatériel, qui analyse l'intrication forte aujourd'hui entre la science, la technoscience et le capitalisme qui s'en adjuge les prodiges, en soulignant que s'il n'est pas envisageable pour le capitalisme de s'émanciper de la science, le contraire est tout à fait possible.
Aujourd'hui, si on parle d'immatériel dans l'économie, je crois qu'il ne faut pas limiter l'immatériel au problème de la connaissance et de la science. La connaissance et la science ont été à la base des premières réflexions d'économistes sur l'économie de la connaissance, sur le facteur de production que sera en quelque sorte la connaissance. Aujourd'hui, les choses bougent beaucoup de ce côté-là. Qu'est-ce qui est appropriable, qu'est-ce qui n'est pas, quelle est l'importance du nombre de brevets, est-ce que le brevet est quelque chose de si essentiel, est-ce que l'appropriation privée de tel ou tel type de même, tout ceci peut faire l'objet de débats. Et surtout, la chaîne de valeur de ce qu'est le rapport entre la connaissance et la production industrielle a complètement changé par rapport à l'image que l'on pouvait avoir de grands secteurs industriels comme la chimie ou comme la pharmacie, dans lequel il y avait des temps, des cycles extrêmement longs et dans lequel on pouvait déployer un imaginaire fait de recherche fondamentale, de recherche appliquée, développement, tout ceci sur... Bon, voilà, la vérité aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est qu'il y a 10 millions de personnes qui travaillent dans la recherche dans le monde, qu'aucune entreprise ne peut imaginer avoir des services internes de recherche, de développement, d'innovation qui soient compétitives par rapport à cette science et cette connaissance qui existe un petit peu partout, sans mettre en relation ces personnes avec la disponibilité mondiale d'autant d'intelligence. Et il se trouve qu'avec des réseaux, avec Internet, etc., on arrive à énormément de choses et personne ne saurait travailler autrement. Donc le fait d'imaginer la science et la connaissance comme de plus en plus encapsulées dans l'activité économique est quelque chose qui serait assez délirant. La connaissance et la science ont aujourd'hui une vie qui s'est énormément autonomisée par rapport aux entreprises. Et je crois qu'il faut très très nettement distinguer les phénomènes d'innovation dans les entreprises du phénomène de la recherche scientifique et technologique. C'est deux choses différentes. Par contre, il y a des tas d'autres immatériels qui existent que l'immatériel de la connaissance. Il me semble que toute la dimension écologiste de la réflexion de Gorz sur le fait de considérer aujourd'hui dans le fonctionnement économique tout ce qui avait été considéré comme des externalités hier, et le fait de réinternaliser ces externalités dans le fonctionnement économique est un phénomène au moins aussi important que le phénomène de la seule connaissance dans la prise en compte d'une économie immatérielle.
Par rapport à Rifkin, là, je l'accès, là, qui examinait la nature de la transformation, que la nouvelle économie fait subir la notion de valeur, notamment par le primat accordé au capital immatériel qui l'emporterait sur les produits matériels. Et donc, c'est désormais la dimension symbolique, esthétique et sociale du produit, enfin dans les pays hyper industrialisés comme les nôtres, qui l'emporterait sur l'usage pratique avec une dévaluation de l'utilitaire à l'avantage du statut symbole, parce que quand même la marchandise c'est pas simplement de la valeur d'usage, c'est du statut symbole, dans la mesure où un produit est également un mix d'imaginaire, de réel et de symbolique. Ça c'est le neuroboroméen de Lacan, c'est pas Rifkin qui dit ça. Donc je trouve qu'il y a une réflexion à avoir aujourd'hui sur ce qui est promu comme produit par, disons, les entreprises, notamment avec les nouvelles technologies.
Je pense que, d'abord, il y a une sorte de retour de la question de l'esthétique par rapport au monde économique, qui est une question assez récurrente, mais qui ne se pose pas dans le temps, dans l'histoire, toujours de la même, de la même manière. Le point de départ d'un passé récent, c'est fin du 19e siècle, quand l'industrialisation, la production en série, atteint les objets de consommation quotidienne, et où le monde économique, le monde industriel se pose la question de dire à quoi ça va servir, quel sens. Là, on se pose la question de quel sens de la production en série. Et il y a une espèce de réponse qui va apparaître, pas tellement en France, d'ailleurs, c'est plutôt allemand, scandinave, comme été, qui dit que le produire en série, ça doit avoir comme signification de démocratiser le goût. Et tout mouvement de l'esthétique industrielle, de l'esthétique fonctionnaliste, donc le Bauhaus, tout ce mouvement-là, est né un peu de cette réflexion économique au départ.
La France étant pas trop partie prenante de ce genre de questions, étant restée un peu à l'écart. Je crois que d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles la France a été ouverte de toute autre inspiration en matière d'esthétique, surréaliste, etc. Qui, bon, aujourd'hui, la question esthétique qui semble avoir disparu du paysage revient très en force, qu'on voit des stratégies, je sais pas, Apple par exemple, et me semble être une stratégie dans laquelle on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'Apple, est-ce que c'est des vendeurs d'informatique, est-ce que c'est des vendeurs de télécommunications, est-ce que c'est des vendeurs de jeux, est-ce que c'est des vendeurs de logiciels, et je pense que c'est des vendeurs d'une certaine esthétique, et une esthétique qui a une signification assez précise, qui est de dire tout le monde derrière les technologies d'information insiste sur les océans de bits, de masse, de gigabits d'information, de machin, de complexité. Et en fait, on peut arriver à ordonner par la beauté la fonctionnalité et à la rendre quasiment intuitive. Et donc, il y a un boss quelque part, c'est toi qui détends mes produits. Bon, je crois que c'est à peu près ça qui, derrière la simplicité, le dépouillement et la présentation des produits, est comme message derrière des produits Apple. C'est ça leur secret. Donc je crois que Rifkin a raison, il y a une espèce de retour, et qui, dans le cas d'Apple, montre bien qu'on peut arriver à protéger des systèmes de valeurs par de tout autre biais que par les biais juridiques. Et là, c'est une sorte de valeur qui est encapsulée dans l'avance et la pureté d'une démarche esthétique.
Tendance de la, disons, de ce qu'on appelle le monde de la production-reproduction par rapport à celui de l'activité créatrice, tend à investir cette dimension de l'activité créatrice, donc avec une modification du statut du produit qui devient davantage objet, d'ailleurs, que produit, c'est-à-dire que produit confiné à cet univers finalement anonyme de la sérialisation. Et là, par exemple, je prends surtout ce qui est extraordinaire dans cette appropriation symbolique des vertus de l'art par Renault, tant il fait sa publicité, il me fait toujours faire rire, créateur d'automobiles, parce qu'ils ne peuvent plus se contenter de les produire, il faut qu'ils les créent. Et alors qu'il y a quelque chose de profondément révélateur.
Deux remarques très rapides. Bon, primo, les artistes, ouais, de savoir aussi quel type d'intervention ils veulent avoir dans cette affaire.
Ouais.
Lorsque des designers ou, je sais pas, comme l'équipe des 5-5, par exemple, travaillent sur la réparation des objets ou travaillent avec, dans le domaine de la porcelaine, chez Bernardo, travaillent avec les salariés des différents types de fonctions qui fait quoi pour essayer de voir comment eux-mêmes peuvent se réapproprier ou réinvestir du sens dans leur travail avec, au contact d'artistes qui les font réfléchir, on a une toute autre signification que celle de la production du buzz ou de l'image ou de quelqu'un qui interviendrait de telle ou telle manière. Donc je crois tout de même que les points de rencontre entre l'art et le monde économique sont nombreux et n'obéissent pas à une seule logique aujourd'hui qui serait une sorte de logique de l'orgueil bouffi du marketing complaisant. Je crois qu'il y a d'autres choses. Ensuite, concernant Renault, créateur de... il y a cette classification que tu indiques, mais il y en a une autre qui est un des meilleurs livres, je pense, qui a été... un très bon livre qui a été écrit sur le monde de l'entreprise et du travail, c'est le livre qu'a écrit Didier Toussaint, qui a écrit un livre sur Renault, et c'est sur l'inconscient d'une entreprise. Renault, c'est vraiment un cas extrêmement intéressant, parce que moi j'étais chercheur en sciences sociales, j'ai animé à son... Il y a eu une époque où l'ensemble de la recherche en sciences sociales se concentrait sur Renault, et l'industrie de l'automobile était l'archétype de ce qu'on voulait afficher, et le modèle de la lutte des classes, on a l'impression vraiment de le voir là, bien fonctionner, dans l'industrie automobile. Or, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué parce que ce que Didier Toussaint a travaillé sur Renault, parce que Louis Renault, le créateur, a eu deux neveux qui ont écrit sur leur oncle, et l'un est Pontalis et l'autre est
Philippe Sopo.
Philippe Sopo. Tous les deux ont écrit sur leur oncle, donc il y a eu une analyse des témoignages de première main assez réfléchis sur Louis Renault et qui font apparaître à quel point la folie créatrice chez l'entreprise peut jouer, mais la folie destructrice peut jouer aussi complètement. Et Louis Renault, c'était tout de même, tel que le dépeint Toussaint, c'était tout de même quelqu'un qui était tout de même caractériel absolu, incapable de regarder en face quelqu'un, des propos extrêmement blessants en permanence, et tout ceci construit en opposition avec un père qui était un vendeur de... qui était plutôt un beau parleur et quelqu'un qui était dans la mode. Et le retour de l'expression créateur est une espèce de retour du refoulé de quelque chose qui a structuré la psychologie de Louis Renault. L'histoire de Renault est quelque chose d'absolument hallucinant, puisque Louis Renault avait réinventé un peu son père avec une sorte de numéro 2 de l'entreprise avec lequel il n'a pas tardé à s'engueuler comme tout. Avant-guerre, l'entreprise était dirigée depuis deux lieux différents entre M. Leuil II, qui était un peu comme son père, hein, quelqu'un de plus ouvert, parleur, et lui qui était un ingénieur mécanicien renfrogné et n'aimant pas les gens, s'engueulant comme tout, déchirant cette entreprise, jusqu'à ce qu'arrive, comme dans une tragédie grecque sinistre, le Deus Ex Machina, l'armée allemande, tous les deux rivalisant dans la collaboration pour arriver à prendre la victoire l'un sur l'autre. Louis Renault proposant aux Allemands de transformer l'appareil de production de Renault en un appareil de production pour fabriquer des chars, des tanks, des machins, etc. pour l'armée allemande. Et M. Leuil II, pour arriver à contrer son oncle, devenant ministre de la production industrielle de Vichy, pour arriver à reprendre le contrôle de cette espèce de folie-là, a structuré l'imaginaire de Renault profondément. Et l'analyse de la violence de l'entreprise Renault est aussi un écho, pas uniquement de phénomènes sociétaux, mais de phénomènes psychiques, qui était l'espèce de folie structurante de l'entreprise. Je crois qu'il y a aussi dans les entreprises à s'intéresser, même dans les très grandes entreprises, à des phénomènes que l'on passe quelquefois sous silence pour faire la place à l'analyse collective des mouvements sociaux, qui est l'analyse du psychisme dans ce qu'il a, dans ce qu'il s'exprime de façon individuelle et qui peut véhiculer des courants qui sont des courants beaucoup plus larges que des courants personnels.
Georges Bataille évoquait dans la notion de dépense que la société du travail, hantée par l'accroissement de ses ressources, reste néanmoins à la merci d'un besoin de perte démesuré qui existe à l'état endémique dans la société. L'allocation rationnelle des richesses ne parvient jamais à chasser au loin des gestes ultimes et insensés dont le symbole est cette rivière de diamants parfaitement superflue dans laquelle le millionnaire est prêt à engloutir une fortune patiemment amassée à seule fin d'honorer sa maîtresse. Dans une conversation antérieure, tu m'évoquais que la rationalité comptable propre au monde économique masque mal l'immense champ de force psychique qui le constitue, selon des calculs et des intérêts qui le cèdent souvent à l'irrationalité, aux conflits et aux enjeux psycho-affectifs mus par la puissance ou la gloire.
À la fois, t'as ton évocation de Bataille et de la notion de dépense. C'est bien parce que ça nous amène tous par rapport à un domaine qui est hyper codé tout de même. Quand on parle d'économie, quand on parle de la question du travail, il y a tellement de drames humains et d'espoirs collectifs qui ont été portés par certains langages que c'est très très difficile de... La part maudite de Bataille, on n'a pas envie trop de la voir. On n'a pas envie de voir ce qui se passe en dessous du... Et pourtant, je pense que les entreprises sont un des lieux, une des institutions à travers lesquelles on essaye de territorialiser, d'enfermer, de rationaliser quelque chose qui est beaucoup plus puissant, qui sont les grands courants psychiques. Hein. On parle de Bataille, on pourrait parler de Deleuze ou Guattari, l'idée que tout de même il y a une espèce de courant d'ondes psychiques qui traverse le monde, et tout le monde essaye de territorialiser ça, de renfermer, de voir le facteur ultime d'analyse que serait les familles, papa, maman, le bébé, et l'entreprise, voilà, ça se passerait. Et non, d'ailleurs, dans cette mesure-là, que je trouve qu'il faut accorder de l'importance, des éléments comme l'origine même de la notion de grande entreprise, la corporation, comme on dit aux États-Unis. Il y a des travaux qui ont été faits, notamment par des juristes, sur d'où ça vient, cette expression. Et c'est une histoire complètement dingue qui insiste sur la dimension d'irrationalité et de danger que l'on a de s'inscrire, en les recevant comme innocentes, dans des notions qui sont beaucoup plus chargées et complexes qu'on imaginerait. En fait, en droit américain, les activités économiques d'entreprise, au départ, étaient forcément liées à des finalités extrêmement précises. L'entreprise qui va construire le chemin de fer Philadelphie à New York, ça c'est une entreprise. Et pas de but plus général que ça, pas d'existence qui dépasse une finalité donnée. Et assez bizarrement, ce qui va faire apparaître la notion d'entreprise plus large, c'est la législation sur l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Là où on amène, où la loi va décider qu'une personne ne peut pas être soumise à une autre personne, l'esclave d'une autre personne, eh bien, une fraction très importante, enfin 80% de la jurisprudence
sur l'application de cette loi va être une jurisprudence de la part d'entreprises qui disent « Mais en fait, moi, je suis enchaîné à quelque chose qui est la finalité que je me suis donnée. Je veux être libéré au nom de la loi sur l'abolition de l'esclavage, de l'espèce de finalité stricte pour devenir une entreprise qui a une finalité plus large, qui a pour rôle de produire du transport, je ne sais pas quoi, pour prendre l'exemple, pas du tout de construire la ligne de chemin de fer de ici à ici, et d'avoir une espèce d'âme. Et il y a une espèce de métaphore qui se structure à la fin du XIXe siècle pour donner aux entreprises une notion d'âme et de corps. On va appeler l'entreprise la corporation, qui est justement qui a un corps collectif, comme il y a le corps physique de l'esclave qui doit devenir libre. Cette espèce d'histoire-là a été utilisée par un professeur de droit canadien pour avoir une vision très 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 critique sur la perversité inhérente au monde de la grande entreprise, très déterministe, parce qu'on insiste sur le péché qui est cette perversité originelle. Bon, je crois que c'est un peu trop simple, mais par contre, ça nous met sur la piste de l'idée que on ne peut pas faire comme si des groupements humains, parce qu'on était dans le monde de la production, de l'économie, de la tentative de rationalisation, échappait au côté tout de même délirant, psychiquement ingouvernable de ce que sont les entreprises humaines. L'idée qu'il puisse y avoir des organisations humaines qui se définiraient sur une base strictement rationnelle n'a ni queue ni tête. Les entreprises sont comme d'autres institutions, enfin, on pourrait parler d'autres types d'institutions, les dépositaires de fantasmes, de folies, de représentations qui n'ont absolument rien à voir avec ce que l'on met sur la table comme rationalité, mais renvoie, en ce qui est particulier, qu'elle renvoie beaucoup aux phénomènes encore très archaïques, je pense, à travers lesquels on pense les phénomènes d'autorité. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, lorsque l'on doit agir, parce qu'une entreprise est un lieu d'action, comment on coordonne? Là, Edgar Morin aime dire qu'il y a un moment que les hommes sont sortis des cavernes, mais que les cavernes ne sont pas sorties de la tête des hommes. Mais c'est vraiment une des situations dans lesquelles on se trouve tous très archaïques. On veut être dans une économie plus de création, dans laquelle les dimensions personnelles, l'aspérité de chacun devrait avoir une importance plus grande. Donc, nécessairement, les relations, les affects, la capacité d'action des gens les uns sur les autres, de transformation mutuelle, prennent une importance considérable. Et en même temps, on se réfère tous à des modèles un petit peu militaires, comme militaires ou paternalistes, enfin, des schémas d'autorité hiérarchique, pyramidaux, qui sont très vite troublés dès qu'il y a une confrontation de plusieurs cultures, donc l'importance des phénomènes de diversité dont on parlait tout à l'heure, ou de mixité, parce que il y a des tas de situations où les femmes sont mises dans des situations un peu paramilitaires aussi d'organisation de travail parcellisé et organisé, il y a des tas de situations où dans la liberté, dans les rapports de mixité, les rapports hommes-femmes, etc., marchent mal avec ce fonctionnement et créent des tas de situations un petit peu ambiguës, bizarres, qui ne cadre plus avec cette discipline unisexe du modèle militaire classique.
André Gorz soutenait que quelque chose comme une économie socialiste avait fait la preuve de son inanité et que le mode de gestion capitaliste était à ce jour le plus performant. Pour cette raison, il ne pourrait être dépassé au point qu'il était absurde d'ailleurs de le nier au nom même d'idéaux, fût-il socialiste. Un dépôt évidemment ici de la considération du haut forme d'économie mixte, coopérative, sociale, solidaire, mutualiste. Alors, le socialisme constitue pour lui, par l'arraisonnement du capitalisme, par une société capable de le maîtriser, en l'assignant à satisfaire des finalités sociales et politiques, privilégiant l'épanouissement humain, l'autonomie individuelle et la réappropriation sociale du temps, individuel et collectif. Partages-tu cette vision à l'heure où le dépassement du capitalisme est à l'ordre du jour de certains débats, compte tenu d'une part des désastres ambientaux, dessinant les limites inéluctables d'un mode de développement et d'expansion qui n'est plus en mesure d'assurer sa propre production?
André Gorz, quelle que soit l'admiration qu'on peut lui porter, ne pouvait pas anticiper l'évolution des technologiques et économiques aussi fortes que celles que l'on connaît, et notamment ne pouvait pas anticiper le phénomène, tous les phénomènes qui se posent autour aujourd'hui de la production de tâches, d'œuvres collectives immatérielles. Le travail immatériel, le travail de la connaissance ou autre, était tout de même pendant longtemps très individuel. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui se font de façon collective, ne serait-ce que l'écriture des programmes et des logiciels. Mon premier métier, j'ai été chercheur en informatique.
Et à l'époque où j'étais chercheur en informatique, on travaillait avec des ABAC dans lesquels on sait que pendant un programme, une des principales difficultés, c'est les bugs, c'est les fautes. Et on savait qu'en fonction du nombre de lignes d'un programme, quel était le nombre de fautes que l'on devait trouver. Donc une des tâches très importantes qu'on écrivait dans le logiciel, c'était de le tester jusqu'à ce que, en fonction de son nombre de lignes, on savait qu'il fallait trouver tant de fautes, fallait les avoir trouvées. Si on les avait trouvées, on était d'accord, c'était bon. Et l'industrie informatique a fonctionné pendant longtemps comme ça, avec des cycles de développement très longs, qui étaient le temps de tester pour trouver le nombre d'erreurs qui étaient recherchées. Et les conditions d'accélération du marché, de la compétition ou autre, ont fait que peu à peu, il a fallu mettre sur pied des mécanismes dans lesquels on n'avait plus la possibilité de tester les choses, ça allait plus vite. Alors on a inventé des trucs, qui étaient des clubs d'utilisateurs pour permettre, même avec des produits qui étaient mis sur le marché semi-finis, pour essayer de recueillir les avis des uns des autres. Mm-hmm. Puis les marchés sont devenus grand public, c'était plus possible. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'ensemble de la production marchande de logiciels fonctionne autour de produits qui sont souvent très insatisfaisants, fonctionnant mal, etc. Et il y a d'autres choses qui sont apparues. Quand on voit l'essor du logiciel libre, c'est tout de même l'idée que, en travaillant à plusieurs sur un logiciel, en essayant de tester ce que celui qui a écrit tel des morceaux du logiciel a fait pour pouvoir y greffer ce que l'on veut faire, il y a un système de contrôle, autocontrôle en permanence qui se fait, qui est beaucoup plus efficient, en fait, que le système classique de production des logiciels dans un contexte propriétaire. Donc, toute cette histoire pour dire que, pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons d'efficience, le fait de considérer le logiciel comme un bien commun non appropriable a trouvé une sorte de légitimité, de force, mmh, qui est très grande et que Gortz ne pouvait pas...
Il avait parlé beaucoup du logiciel libre.
En tout cas, aujourd'hui...
Parce qu'il aime beaucoup.
Oui, mais aujourd'hui, aujourd'hui je pense qu'on se trouve face à des objets économiques très présents dans l'économie matérielle, qui ne sont ni des objets qui relèvent de l'appropriation privée, ni qui relèvent de l'appropriation publique au sens étatique du terme, mais qui sont dans ces catégories que l'on appelle de biens communs, et qui ouvrent des questionnements politiques ou sociaux ou d'organisation qui ne se résument pas à la question capitalisme-socialisme. C'est un problème de glissement et de changement, je crois, de métamorphose assez complète du monde dans lequel on est. On a tout de même vécu beaucoup sur l'idée qu'à l'aube de la révolution industrielle, il y a une espèce d'énorme accroissement de la productivité agricole qui s'est produit notamment en Angleterre, lorsque tous les champs de veine pâture, de libre pâturage, ont été délimités par des haies, clos, appropriés par des gens qui ont, se sentant propriétaires du truc, les ont mieux cultivés. C'était le mouvement des enclosures anglais qui était une espèce d'énorme bataille sur 3 siècles et qui se traduit par une espèce d'énorme accroissement des surplus agricoles qui a libéré la... Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une question vraiment majeure dans l'économie plus immatérielle dans laquelle on est, qui est de savoir si l'appropriation privée est réellement un facteur clé d'accroissement de la productivité, comme certains le diraient, ou au contraire, un phénomène de régression de la productivité. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas. On aurait pu prendre des exemples dans le domaine de plus de marché, la loi Hadopi, dans lequel c'est tout le contraire. Je crois qu'on ne va pas du tout dans le sens de l'accroissement de l'efficience économique par les démarches d'appropriation privée. Donc je pense qu'on est, on s'inscrit là dans l'affection sur le travail, mais plus généralement, on est amené en permanence à des questions qui ont trait à la mutation, à la métamorphose du système économique, sociétal, culturel, technologique dans lequel nous sommes.
Ainsi s'achève cette émission des Périphériques vous parle et nos entretiens avec Philippe Lemoine, fondateur du Forum d'Action Modernité et président-directeur général de l'ASER. Cette émission sera rediffusée le mercredi 3 novembre de 10h à 11h. Cette émission a été la première d'un cycle qui se poursuivra tout au long de l'année 2011 dans le cadre de la démarche du collectif Travail et Démocratie. 2 vidéos tirées de cet entretien seront mises en ligne courant novembre sur le blog des Périphérique vous parle, ainsi que cette émission dans son intégralité. Vous êtes sur fréquence Paris Pluriel 106.3 Bande FM À très bientôt et restez à l'écoute.
Warning
New York City police officers, on trial for killing Amadou Diallo, was found not guilty on all charges. The officers admit they fired 41 shots at Diallo because they thought his wallet was a deadly weapon.
Anarchy.
The slaughter of ethnic Albanians by Serbs continues in Kosovo.
Society without government.
Streets of Miami's Little Havana clogged with thousands of protesters vowing to prevent the return of 8-year-old Ilian Gonzalez to his father.
Anarchy.
Two teenage gunmen entered Columbine High School and opened fire, killing 13 students and wounding 23.
Society. Without law.
In the clear, no right on this earth.
People have been annihilated.
Anarchy.
In the clear, no right on this earth.
Another Seth campaign for New York's vacant Senate.
Political and social.
In the clear, no right on this earth. To be a man, to be a human being, to be respected.